Voilà. Ah ben écoutez, je suis très content parce que je viens de recevoir l'introduction de mon message. Je savais pas trop comment introduire mon message ce matin. Et puis voilà, je l'ai reçu tout à l'heure, c'est vraiment super. Je sais pas si tu as mis les versets en préparation, mais en fait ça c'était pas prévu, donc je vais lire juste un passage d'une prière que Paul faisait pour l'église d'Éphèse, et donc qui nous concerne, hein, ce qui s'adressait à l'église d'Éphèse nous concerne aussi. On est l'église de Christ, l'église d'Éphèse était l'église de Christ et nous sommes l'église de Christ. Et c'est un très beau passage que j'aime beaucoup, que je lis de temps en temps, et qui s'intitule « Comment Paul priait ?» Alors c'est dans la version « Parole vivante ». Voilà. Et il dit cela, Paul, il prie cela. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Ces paroles s'adressent à vous, à chacun d'entre nous. Continuez, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. En fait, c'est des promesses de puissance. Il continue comme ça. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et le verset 19, hein, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier chapitre d'Éphésiens. Et au verset 19, écoutez bien ce que le Seigneur dit pour vous. C'est que vous... Donc c'est, je continue, hein, c'est quand même l'apôtre Paul qui prie pour nous, mais s'il le prie pour nous, c'est que c'est dans la parole de Dieu. Et c'est que ce qu'il prie, il sait que ça peut prendre vie. Comprenez, c'est ça qui est important. Donc ça s'adresse vraiment à nous. Et ce que prie l'apôtre Paul pour son église, c'est que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est-à-dire que nous disposons, il nous a mis en notre faveur, nous disposons d'un pouvoir, voilà, extrêmement puissant. Par ailleurs, dans la parole, il dit que c'est le même pouvoir, qui est la même force, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Et il dit que c'est à notre disposition. Nous qui plaçons notre confiance en lui. Alors c'est vrai que pour qu'il puisse s'exprimer, il faut d'abord que nous plaçons notre puissance en lui. Alors ça, c'est des paroles. Ce n'est que des paroles, c'est écrit dans la Bible, c'est que de l'encre et du papier. Et ça peut rester lettre morte toute notre vie. Jésus, pourtant, a promis à ses disciples qu'il ferait des choses encore plus puissantes qu'il faisait lui-même. Franchement, moi, j'ai du mal à comprendre, je ne l'ai pas encore vécu dans ma vie. Mais j'aimerais le vivre et je pense que c'est possible puisque Jésus l'a dit. Mais tout c'est... paroles peuvent rester lettre morte toute notre vie si nous ne les saisissons pas. Et en fait, c'est l'objet de mon message. J'ai reçu ça et je dis, mais voilà, c'est là, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces paroles? Est-ce qu'on les saisit? Est-ce qu'on les saisit? Est-ce qu'on les croit? Est-ce qu'on les crie? Est-ce qu'on les prie? Parce que moi, l'apôtre Paul, il n'est plus là, vous savez, il ne peut plus prier pour nous. Mais vous, chacun d'entre nous, on peut prier pour nous cette prière. On peut l'apprendre et puis, puisque ce sont des paroles et que ce sont des promesses du Seigneur Jésus, que nous avons sa puissance, nous a envoyé son Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'on attend? Et en fait, ben voilà, c'est l'objet de mon message. En fait, j'ai l'introduction et la conclusion. Ça m'était donné, et puis c'est vraiment bien. Et maintenant, on va mettre le verset avec lequel j'avais prévu de commencer. Et c'est Matthieu 6:8. Alors, c'est aussi la version parole vivante, hein, mais voilà, il y a d'autres versions. Et si on pouvait le mettre, je ne sais pas si... Matthieu 6:8. C'est, en attendant qu'il soit mis, voilà, qu'il soit projeté, c'est un verset qui nous amène à un paradoxe. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe? C'est différent d'une contradiction. La Bible s'est dit que Dieu ne se contradit pas, hein, ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction. Or, ben, quand on lit la Bible, des fois, il semble qu'il y ait des contradictions. Mais un paradoxe, ça semble être une contradiction, mais en fait, ça, c'est une opposition qui révèle une vérité. Et ce paradoxe, c'est, Matthieu 6:8, c'est « Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Ah, alors le Seigneur, il nous demande, il sait déjà de quoi on a besoin avant qu'on lui demande. Mais alors pourquoi il insiste tant pour que nous prions, puisqu'il le sait? Vous comprenez ça? Je pense que vous vous êtes déjà posé la question. Vous avez dit, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin, et tu veux que je prie. Jésus n'a pas arrêté de répéter, voilà, priez, priez et vous recevrez. Et il l'a dit je ne sais pas combien de fois. Mais il dit, mais on aurait pu lui dire, mais Seigneur Jésus, mais pourquoi, à quoi ça sert que je prie, puisque tu sais ce dont j'ai besoin? Et il y a tout un chapitre, c'est Matthieu 6, où Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas. Et il prend les exemples, vous savez, Matthieu, ne vous inquiétez pas pour de quoi vous serez vêtu. Vous voyez, tout ce chapitre. Il prend l'exemple des lys, comment ils sont habillés, ils sont beaux. Il prend l'exemple des oiseaux, comment ils sont nourris. Il dit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais il ne dit pas, ça vous sera donné forcément automatiquement. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous allez comprendre comment on va lever ce paradoxe. Le Seigneur nous demande, nous dit qu'il sait ce dont on a besoin, mais il nous demande de demander. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, alors, c'est un enseignement que j'ai reçu et... Voilà, ce sont des interprétations, mais voilà, comme disait Pierre il y a 2 semaines, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on en parlera ensemble, mais je pense qu'il y a quand même vraiment des vérités. Si je vous partage, c'est que je pense que c'est quelque chose, c'est une piste sérieuse, et c'est intéressant. En fait, pour lever ce paradoxe, pour comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de prier alors qu'il sait très bien ce dont nous avons besoin, eh bien, on va faire un petit tour dans Genèse. Et Genèse, au chapitre 1, 26 à 29, alors je ne l'ai pas mis, hein, ce n'est pas la peine de le chercher, je fais juste un petit résumé pour être plus rapide. Et j'ai, donc vous pourrez vérifier dans votre Bible, hein, moi c'est sur la version Bible en français courant. J'ai pris juste sur ces 3 versets quelques mots. Dans Genèse, donc chapitre 1, 26 à 29, vous allez bien reconnaître de toutes les façons, hein, c'est très connu. Faisons les êtres humains comme une image de nous, un peu plus loin, qu'ils soient les maîtres, un peu plus loin, peuplez toute la terre et dominez-la, un peu plus loin, je vous donne les plantes, et puis après, bon, ils donnent les plantes aux animaux, mais bon, s'ils nous donnent les plantes, ils nous donnent les animaux, c'est pareil. Et en fait, ce passage nous dit que le Seigneur nous donne la domination sur la terre, la responsabilité de nous occuper de la terre. Et pour appuyer cette idée, nous sommes responsables, il nous confie ça. Et pour appuyer cette pensée, voilà, j'ai Au psaume 115, verset 16, comme vraiment, pour moi, c'était pas du tout un hasard de citer le psaume 115. Je trouve ça génial. Et je vais reprendre juste ce que tu as dit. Au verset 1, c'est « Ce n'est pas nous, Seigneur, mais non, ce n'est pas nous que revient la gloire, mais à toi pour la bonté et ta fidélité. » Donc, voilà, on met les choses au point. Voilà. Hein, à te laisser dans la gloire. Mais regardez, du même psaume, au verset 16, hein, c'est écrit « Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. » Au psaume 8, verset 7, toujours en version français courant, c'est écrit, tu le fais régner, l'être humain, c'est nous, il s'adresse à nous, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Voilà. Alors, ça a quoi le rapport avec le fait de prier, que le Seigneur nous demande de prier, bien qu'il sache? Eh bien, c'est qu'il nous demande de nous accaparer des choses, il nous demande d'assumer nos responsabilités. En nous créant à son image, Dieu nous a non seulement, et puis en nous demandant de dominer sur la terre, en nous donnant les plantes, en nous remettant la terre, il nous a remis la terre. Il nous a donné son héritage, cette responsabilité, mais aussi la capacité. La capacité de prendre soin de cette terre, de prendre notre responsabilité. Et alors ça, c'était au début, avec Adam et Ève. Et quand c'est écrit qu'on règne sur la terre, aujourd'hui, est-ce qu'on en est vraiment sûr? Ben non, qui règne sur la terre aujourd'hui, ben c'est le diable. Donc au départ, on a reçu cette capacité. Je vous lis un Jean 5, 19, hein. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Ça, c'est aujourd'hui depuis la chute. Mais au départ, le Seigneur nous avait confié la responsabilité. Et vous savez quoi? Eh bien, depuis que Jésus est venu nous donner la vie, qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit, c'est à nouveau possible de reconquérir ce qui nous a été volé par l'ennemi. Il nous a donné la possibilité en Christ de redonner, de reprendre ce qui avait été donné à Adam et Ève. Parce que au début, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'était je donne la domination de la terre, de se peupler, etc. C'était un ordre qui était donné à Adam et Ève, et qui avaient la capacité, la possibilité de le faire. Ils étaient en communion avec le Seigneur, mais il n'y avait pas eu la chute. Et voilà, Adam et Ève, ils ont voulu se débrouiller tout seuls. Et ils ont perdu cette capacité de dominer réellement sur la Terre. Il suffit de regarder dans quel état est notre planète aujourd'hui, dans quelle direction va l'humanité, tous les conflits qu'il y a, mais les hommes s'entretuent, les hommes se font beaucoup de mal. On n'appelle pas ça dominer sur la Terre. Un peuple divisé contre lui-même, nous disait Jésus, ne peut pas subsister. Et les hommes sont divisés entre eux-mêmes. Donc, on avait reçu initialement la possibilité de dominer la Terre, mais là, on va juste, voilà, au casse-pipe. Mais, on a reçu l'esprit et la capacité, je vous lisais au début, cette puissance extraordinaire qui est à notre disposition. Et ce qui nous a été volé par Satan, parce que, en fait, ce qu'a fait Satan avec Adam et Ève, c'est qu'il a volé leur héritage, il leur a volé leur capacité. D'accord? Ça nous a été volé. Et reconquérir toutes ces promesses de bénédiction, de vie avec un grand V. Vous savez, Jésus, quand il dit, je vous donne, je suis l'Est, je mérite un, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Et quand il a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Adam et Ève, ils ne sont pas morts physiquement, hein? Mais ils sont morts spirituellement. Ce n'est que dans la vie spirituelle qu'on peut vivre cet héritage et de faire et d'accomplir cette domination réelle sur la terre, où on maîtrise toute chose, mais de façon parfaite, comme Dieu l'avait prévu au départ pour Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Et Nous avons, nous chrétiens, Jésus dit, je suis venu annoncer le royaume des cieux. Et ce qui était prévu au départ, c'était le royaume des cieux, où étaient Adam et Ève, c'était voilà, l'expression de la plénitude des êtres humains dans un milieu béni par le Seigneur et protégé par le Seigneur. Et nous avons perdu cette bénédiction, mais c'est toujours à notre disposition. Et c'est ce que dit le passage d'Éphésiens que je vous ai lu au départ. L'inconsumérable puissance que Dieu met à notre disposition aujourd'hui, c'est de reconquérir ça. C'est ça le royaume des cieux, c'est de réinstaller à nouveau le royaume des cieux sur cette terre déchue. Voilà. Et nous avons cette responsabilité de reconquérir ce qui a été volé. Et comment ? Comment le faire ? Ben, l'âme suprême que nous a donné le Seigneur, c'est la prière. Et si le Seigneur, il nous dit, en fait, moi, comme je l'interprète, maintenant, voilà, on est à vous de voir, je dirais, vérifier dans la parole, le Seigneur nous dit, mais si tu ne prends pas position, si tu ne pries pas, si tu ne réclames pas, je ne te donnerai pas. C'est... Alors, voilà, j'ai reçu un enseignement, je trouve vraiment intéressant, qui me parle beaucoup, qui dit que, eh bien, tout ce que nous, êtres humains, nous, chrétiens, hein, je dis chrétiens, nous ne saisissons pas par la prière, eh bien, il ne se passera strictement rien, et on ne fera pas triompher le royaume des cieux si on reste inactif, sans prier, sans nous accaparer, sans demander. Voilà. Parce que le Seigneur, il dit, cette terre, hein, au psaume 115, c'est marqué, la terre, il l'a remise aux humains. Et le Seigneur vous dit, ben voilà, elle est entre vos mains. Alors c'est vrai, maintenant il y a l'ennemi qui est surpuissant, mais moi je vous ai donné la puissance de dominer sur l'ennemi, de vaincre l'ennemi, par ma puissance en vous, par l'esprit en vous. Comprenez l'enjeu. Si vous ne faites rien, si vous ne priez pas, si vous n'activez pas le royaume des cieux sur terre, par la prière, il ne se passera rien. Et l'enseignement que j'ai reçu nous dit carrément, eh bien, si vous n'êtes pas acteur par la prière, vous êtes serviteur de Satan. Parce que soit vous servez le Seigneur, vous êtes ambassadeur du royaume des cieux, vous saisissez par la prière, vous saisissez par la vie de l'esprit, la puissance qui est à notre disposition, voilà, et vous la mettez en œuvre par la prière, par la puissance de la prière. Jésus nous dit, ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Et on peut demander pas mal de choses. On peut demander la puissance, on peut demander la guérison. Vous savez que, voilà, je pense que, si je prends l'exemple de la guérison, le jour voilà, où on guérit, on prie pour un malade, et il est guéri, si on n'est pas prié, il n'aura pas été guéri. Et c'est vraiment l'expression de la mise en œuvre de notre responsabilité de le faire. Voilà. Mais la guérison n'est un exemple, n'est qu'un exemple. Alors c'est bien de prier. Souvent on prie, voilà, parce qu'on nous dit de prier, et puis on a des réunions de prière, et puis on prie chez soi, c'est une discipline, puis Jésus nous demande de le faire. Et votre prière, alors, a beaucoup plus de puissance. Si vous comprenez qu'en priant, vous activez la puissance de Dieu dans ce monde, et que si vous ne le faites pas, ben il ne se passera rien. Si vous ne priez pas. Donc, vous savez, Satan, il se régale, l'ennemi, le diable se régale quand il voit une église qui loue Dieu, qui crie, mais sans vivre la puissance de Dieu, sans vivre par l'Esprit de Dieu, mais qui font des prières. Alors, voilà, je vais aborder ça après. Je vais un peu trop vite. Et je voulais, bon, pour appuyer cela et pour parler toujours autour de la prière, je voulais qu'on lise deux passages. Hein. Non seulement le Seigneur nous demande de prier, mais aussi d'insister. Il parle de ça, hein, de tout ce que je vous dis, il parle dans son enseignement, hein, le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez, on va lire un passage qui est dans Parole Vivante, qui est dans Luc 18, là je l'ai mis. Hein, et on va lire du passage de 1 à 7, des versets de 1 à 7. Voilà, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parole suivante. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre celui qui m'attaque ». Mais pendant longtemps, il s'y refusa. Mais à la longue, il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes, mais cette veuve, elle m'ennuie quand même. C'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. » Et le Seigneur, alors ça c'est une histoire que raconte Jésus pour donner cet enseignement, écoutez bien, hein, notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qui l'a choisi et qui crient à lui jour et nuit, même s'il s'attarde à les écouter et à leur venir en aide? Alors ça, c'est le premier passage que Jésus enseigne à ses disciples, donc à nous, pour montrer que la prière est importante et que non seulement qu'elle est importante, mais qu'il faut persévérer, hein, l'apôtre Paul l'écrivait aussi, de persévérer dans la prière et ne pas avoir peur d'importuner le Seigneur. Et le deuxième passage que je voulais lire aussi, c'est dans Luc 11. À partir du verset 5, alors moi je l'ai inversé aussi par le vivant, hein, voilà. Voilà, c'est un passage qu'on connaît bien. Hein. Il ajouta, supposez que l'un de vous est un ami qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. Admettons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, oh laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. Mais le premier continue à frapper, il insiste. C'est un peu vraiment la même histoire que juste avant, hein, un autre contexte, mais c'est la même chose. Je vous assure que son ami se lèvera, même s'il n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains. Il le fera quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue de l'importuner et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Alors ça, c'est l'histoire que Jésus raconte, une parabole. Et puis, voilà. Et voici l'enseignement de Jésus sur ce passage. Ainsi moi, je vous le dis, demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche, finalement, trouve, et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Ça, c'est l'enseignement de Jésus qui nous concerne pour nous aujourd'hui. Voilà, je prie le Seigneur que ça tombe dans votre esprit et que ça vous parle. Et on va continuer parce que ce qui est très important, c'est la suite. Est-ce que Jésus nous demande de prier pour recevoir une belle voiture, une maison, un conjoint idéal, une super situation professionnelle? Pourquoi Jésus nous demande dans ce contexte de ce verset, de ce passage, de prier, d'insister, de frapper avec insistance et que la porte sera ouverte? Pourquoi? Quel est l'objet de cette prière qui nous dit, mais insistez, insistez, demandez, continuez de frapper, continuez, persévérez, jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. On va voir la fin. Parce que ça, souvent on s'arrête là et puis on dit, ah oui Seigneur, ouais, je vais insister, je vais prier, etc. Voyez la suite, verset 11. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous serait capable de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore s'il demande à un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera quoi? Les dons de l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Alors ça, c'est vraiment une particularité de parole vivante de le traduire comme ça. Les dons de l'Esprit Saint, dans quasiment toutes les autres versions, c'est « Votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit ?» Voilà. Et moi, je donnerai de façon plus large. Bon, les dons de l'Esprit n'étant qu'une manifestation de l'Esprit, je dirais de façon plus large, à plus forte raison, le Père vous donnera le Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'il est là, le Saint-Esprit, mais la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, ce que dit Jésus, c'est que nous devons insister pour la prière, pour vivre l'Esprit. Alors c'est une interprétation personnelle, mais il me semble pas qu'elle soit tordue. Il dit à la fin de la prière, voilà, il prend des exemples, même, si vous voulez, qui sont des exemples de son époque. Avoir du pain à cette époque-là, c'était important. Vous savez, il y a des famines. Il n'y avait pas la banque alimentaire comme aujourd'hui. C'était avoir à manger. Quand il donne l'exemple de la prière, Jésus, d'ailleurs, tout ça, c'est dans le cadre de l'enseignement de la prière, ces enseignements de Jésus. Et quand il prend l'exemple du pain et que ou un poisson, la nourriture, c'était quelque chose de vital à cette époque-là. Il pouvait y avoir des famines, vous le savez. Et donc, c'était quelque chose d'essentiel. Nous, on demanderait peut-être qu'autre chose aujourd'hui. Mais il ne nous demande pas de... Jésus, il dit pas, moi, je peux vous donner ce pain, je peux vous donner... Non, il dit, moi, à plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et j'ai fini la première partie de ma prédication qui était de la nécessité de prier. La nécessité de prier, c'est absolument fondamental pour activer la puissance de Dieu dans notre vie et remporter les victoires. Les chrétiens qui ne prient pas sont des chrétiens morts. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le culte, ça amuse le diable. Ça amuse le diable. Tous les chrétiens qui ne vivent pas par l'esprit, qui ne vivent pas en fonction de ce que Dieu leur a mis dans leur cœur, qui ne vivent pas en communion, ça amuse le diable, ça le sert même. Au moins ils s'occupent à parler de Dieu, ils se font des illusions, et au moins ils n'activent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que ce que craint Satan de nous, c'est que nous activions la puissance de Dieu dans notre vie, parce que contre ça, il ne peut rien faire. Si on y va avec notre propre puissance, notre propre conception des choses, avec nos propres forces, ben ça l'amuse, parce que vous savez qu'il nous balade comme il veut. Et la deuxième partie de mon message, c'est ok, la nécessité de prier, mais prier quoi? Et ce que je voulais vous dire, et je vais conclure assez vite, parce que je n'ai pas envie de faire un message trop long, j'ai envie qu'on s'arrête presque là. C'est que dans notre prière, il y a une priorité. C'est justement de prier ça. Ce que Jésus nous dit, c'est de prier la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Ce contexte de lutte de Luc 11, c'est le même contexte où on a le parallèle en Matthieu, où les disciples demandent à Jésus « Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur donne d'abord le Notre Père, d'accord ? Mais il nous donne aussi des exemples de mauvaises prières. Il dit « Ne faites pas comme ces pharisiens, ces personnes qui en fait prie de manière ostentatoire, vous voyez ce passage, qui revêt, qui prie dans les coins pour montrer qu'on est des bons chrétiens, on prie très fort des fois, dans les réunions de prière, des fois on prie, on veut faire des prières canons, entre dit, d'accord, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais... quand on prie à un moment donné, surtout quoi, avant, comme ça se faisait, enfin nous à Marly, c'est qu'on tournait, puis à un moment c'était notre tour, et moi je paniquais toujours. J'ai dit, ça va être mon tour, il faut que je fasse une belle prière, sinon c'est la honte. Et en fait, là, ma prière a été ostentatoire. Parce que même si je n'avais pas l'impression de la ramener, puis c'est vrai, je ne la ramenais pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui prie facilement en public. Mais quand je priais, c'était pour sauver la face. Ça n'avait rien à voir d'une prière sincère adressée au Seigneur. Vous comprenez ? Et finalement, j'étais en train de prier de façon ostentatoire. Et il dit autre chose. Il dit aussi, le Seigneur Jésus, évitez de rabâcher toujours les mêmes paroles. Ok ? Et alors, mais comment prier ? Bon, je crois que, j'espère que c'est assez clair, la première partie de mon message qui nous montre le fondement, l'importance de prier, c'est vital. Prier, c'est faire de notre Dieu un Dieu vivant. Ne pas prier, c'est faire de notre Dieu un Dieu de carte postale ou de je ne sais pas ce que vous voulez, mais... Voilà, c'est prier, c'est activer la puissance de Dieu dans notre vie, et Dieu est vivant. Sa puissance est à disposition, elle est vivante. Bon, maintenant, Seigneur Jésus nous dit, oui, mais attention de ne pas rabâcher. Alors là, il y a un problème. C'est que franchement, les exemples que donne Jésus dans son enseignement, il dit insister. Mais quand vous insistez, ça peut être pris pour du rabâchage. Par exemple, vous priez, je prends l'exemple de mon pote André, là, qui prie, qui continue de prier pour sa femme, pour la guérison de sa femme, etc. Mais il continue de prier, et puis il prie la même chose. « Seigneur, guéris ma femme. »« Mais Seigneur, guéris ma femme. » Quelle est la différence entre le rabâchage et la prière efficace, la prière que veut le Seigneur? À quel moment? Je ne sais pas, c'est quand même une question qui n'est pas évidente. C'est comment bien prier? Comment prier de manière efficace? Alors, bon, bien sûr, je vais donner une réponse un peu vague, parce qu'il y a d'excellents enseignements sur comment prier, il y a des tas de livres qui sont très intéressants, et je pense que vraiment il faut s'en intéresser. Il faut, par exemple, lire les prières de Paul, comme celles que je vous ai lues en introduction, et puis se dire, mais comment il priait, Paul? Et il y a toutes des études qui sont faites, qui sont très intéressantes sur prier, sur la prière. Mais il y a tout simplement un réflexe que nous devons avoir, je pense, quand on rentre en prière, c'est de demander au Seigneur, pour éviter les rabâchages, l'assistance de son esprit. Et je crois qu'il y a fondamentalement une différence entre celui qui prie dans l'esprit, par l'esprit, avec cette conscience, cette demande, cette soif, cette volonté, et celui qui prie selon la manière dont il a entendu, par exemple, son pasteur qu'il admire, qui prie, puis je vais faire pareil, quoi. Et je prie de façon stéréotypée, où, vous savez, alors là, mais tout le monde est d'accord là-dessus, mais méfions-nous, parce que des fois, on le fait sans s'en rendre compte, mais de faire comme... de réciter des Notre Père comme les catholiques demandent de faire, je sais plus combien Notre Père et je ne sais pas combien Salut Marie. Là, évidemment, là, le rabâchage, il me paraît clair et net, d'accord. Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil dans notre vie. Et comment prier? Et moi, je ne veux pas faire un enseignement sur comment prier. Il y en aura et vous pouvez en avoir je l'ai déjà dit, dans des livres, et peut-être qu'il y aura des prédications encore dans l'Église sur ça, etc. Mais quand on prie, prenons conscience que sans le Saint-Esprit, sans crier à l'Esprit, sans demander au Seigneur l'assistance de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on a de plus important à faire quand on rentre dans ce moment. Et en fait, le titre de cette prédication, c'est « Help Saint-Esprit ». C'est « Saint-Esprit, viens nous aider ». Parce que Jésus nous dit que, nous devons insister avant tout pour avoir l'Esprit et la puissance de l'Esprit en nous. Il y a des tas de promesses qui sont attachées à ça. Un chrétien sans l'Esprit, quoi qu'il fasse, est un chrétien mort qui sert l'ennemi, qui sert le diable. Et comment différencier le rabâchage de la répétition nécessaire quand on prie pour quelque chose, d'insister, quand Jésus prend l'exemple de celui qui est en dessous pour réclamer le pain, celui qui a la porte fermée, mais il a dû répéter, mais viens, ouvre, donne-moi du pain, viens, ouvre, donne-moi du pain, viens-moi. Et il prend cet exemple, et après il dit, mais rabâchez pas. Et bien je crois que très réellement, si vous entrez dans une disposition de cœur du Seigneur, et en priant, voilà Seigneur, moi je ne sais pas prier, mais Seigneur, Saint-Esprit, viens me guider. Eh bien, je suis sûr que si vous insistez, que si vous réclamez le Saint-Esprit systématiquement quand vous mettez en œuvre pour le Seigneur, comme le dit Jésus dans sa parole, là, hein, à plus forte raison, moi, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une priorité. C'est ça mon message. C'est que c'est une priorité de prier pour le Saint-Esprit. Est-ce que quand vous vous mettez en prière, vous priez, Seigneur, viens par ton esprit, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin. Quand vous vous levez le matin, Seigneur, parce que là je parle pour la prière, mais c'est exactement la même chose pour la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible, quand vous prenez la Bible, vous savez, il y a le verset, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu est une puissance extraordinaire. Mais si vous la lisez comme ça, sans la soif de voir l'Esprit de Dieu manifester, vous expliquer, vous dire ce que vous devez faire par l'Esprit à travers la parole, tout ça c'est l'être morte. Vous comprenez? Et c'est comme ça aussi pour tous les actes de la vie, les relations fraternelles. Mais help, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit. Et tout au début de ce que j'avais reçu, je t'avais écrit, j'ai reçu un message, c'était « Il faut d'abord prier pour nous ». Et en fait, prier pour nous quoi? Ben, prier que le Saint-Esprit, voilà, vienne tous les matins. Moi, je crois que c'est une très bonne disposition, tous les matins, de demander l'aide du Saint-Esprit. Jésus nous demande d'insister. Regardez, relisez comme ça, un peu comme je vous le présente. Moi j'avais jamais fait attention à ça. Il demande de continuer de frapper, je vous assure. Continuez à demander et vous recevrez. Cherchez le Saint-Esprit. Persévérez dans votre recherche du Saint-Esprit et vous trouverez l'assistant du Saint-Esprit. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. La porte de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit de vous. C'est vraiment, à la fin il le dit bien, hein, vous comprenez ce que je vous dis, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je pense que d'abord il faut prier, ok, on a compris, mais qu'il y a une priorité dans la prière, c'est de demander à chaque fois qu'on s'installe avec le Seigneur le matin, c'est Saint-Esprit, Seigneur, envoie-le-moi, parce que tout s'éclaire avec toi, tout s'éclaire avec le Saint-Esprit. On ne peut manifester la vie en Christ que par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est une grande particularité que de la foi chrétienne, que cette vie de l'Esprit. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi une grande particularité. Je crois qu'il y a, dans aucune religion, je ne suis pas un spécialiste des religions, où il y a vraiment en soi quelque chose de particulier, Dieu en nous, l'Esprit en nous. C'est l'apôtre Paul qui, en écrivant aux Colossiens, au chapitre 1, verset 27, je n'ai pas forcément de bonne mémoire, mais ça, je le sais. Il y a un grand secret. Il y a un grand secret dans la vie chrétienne. Vous pouvez le vérifier. Hein? Colossiens, chapitre 1, chapitre 27. Un grand secret. C'est quoi ce grand secret? C'est Christ en vous. Et tout est là dans notre vie chrétienne, si vous voulez qu'elle soit fructueuse. Vous connaissez le fruit de l'esprit, on ne va pas prêcher là-dessus. Mais c'est assez extraordinaire, le fruit de l'esprit. Mais si vous n'activez pas par la prière, si vous ne prenez pas votre responsabilité, si vous ne le demandez pas à Dieu, vous ne l'aurez pas. Dieu, c'est pour ça que, pour revenir à ça, Jésus, il sait ce dont on a besoin. Le Seigneur, il sait qu'on a besoin du Saint-Esprit. Mais tu dis, mais oh, maintenant c'est ta responsabilité de le demander. Il est en disposition, c'est à toi, il est à ta disposition. Jésus a tout accompli sur la croix. Et après, il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. Soit on vit par l'Esprit, soit on ne vit pas par l'Esprit. Mais si vous êtes des chrétiens victorieux, il faut absolument vivre par l'Esprit. Et vous avez remarqué que ce n'est pas si évident que ça. Vous avez remarqué que c'est qu'on n'est pas plein de l'esprit en permanence. Eh bien, demandez, insistez, vous recevrez. C'est ça mon message. Voilà, c'est fondamental. Je vous en prie, faites-le. Est-ce que vous voulez être des chrétiens victorieux dans votre vie? Eh bien, ça se fera par l'esprit. Alors, comme Jésus dit, demandez, insistez, persévérez, et ça vous sera donné. Je vous garantis que c'est la vérité. Je vous garantis que votre vie va changer, que votre vie chrétienne va changer, que les fruits vont mûrir, que la puissance va s'inviter dans votre vie, que vous allez installer le royaume des cieux, comme nous demande le Seigneur, autour de vous, en vous, autour de vous. Votre vie va changer. Voilà, il y a ceux qui vivent par l'esprit, c'est compliqué, alors demandons au Seigneur qu'il nous équipe, qu'il nous explique, qu'il nous remplisse. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.